Le message que je vais vous délivrer est tiré de l'épître aux Philippiens, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1, du chapitre 1, et le verset 9 à 11. Je lis. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. En effet, ce sermon que j'ai le privilège de vous présenter ce jour fait partie de la série de sermons programmés sur l'épître de Paul aux Philippiens et dont le pasteur Michael Cole nous a livré ici même l'introduction. Donc, je ne vais pas revenir en intégralité sur cette introduction, mais pour nous rafraîchir la mémoire, je vais tout juste rappeler certains points de cette introduction, bien sûr. Eh bien, l'église de Philippe, c'est la toute première église européenne fondée par l'apôtre Paul au cours de son deuxième voyage missionnaire. Et la ville de Philippe est la capitale de la Macédoine, une colonie romaine située au nord-est de la Grèce. Paul était dirigé par l'Esprit de Dieu vers la Macédoine pour y fonder cette communauté chrétienne de Philippe, objet de l'Épître. Vous pouvez le lire dans Actes 16, verset 12. Cette lettre de Paul, que Paul adresse aux chrétiens de Philippe, a l'allure d'une lettre personnelle. Paul parle de joie, d'amour, de reconnaissance, de prière. Il utilise des pronoms personnels comme « je rends grâce à mon Dieu, mon Dieu a des pronoms possessifs. » Et Paul enfin écrit cette lettre pour remercier la communauté de Philippe pour le don qu'elle lui a envoyé pendant qu'il se trouvait en prison à Rome. Nous allons donc considérer ce matin les divers aspects de la prière de Paul pour les Philippiens, étant donné que l'apôtre Paul est un homme de prière. Eh bien, je dirais, pour poursuivre, que ces versets, le chapitre 9 à 11, de verset 9 à 11 du chapitre 1, fait suite au chapitre 1, verset 3 à 4, qui dit « Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. » Eh bien, dans toutes mes prières. Regardez avec quelle ferveur l'apôtre Paul est pris pour les Philippiens. Alors, j'ai donné ce titre à ce sermon, les divers aspects d'une prière d'intercession. Nous allons voir donc le point suivant, en grand 1, la prière pour un amour abondant. En grand 2, la prière pour un juste discernement. En 3, la prière pour une véritable pureté. Et enfin en 4, la conclusion et l'application pour notre vie. Donc, sans plus tarder, nous allons attaquer le premier point de ce plan. La prière de Paul pour un amour abondant. Eh bien, je l'ai lu tout à l'heure dans Philippiens 1, à partir du verset 9, du verset 1. Du verset 9 à 11, Paul dit que votre amour augmente. Que votre amour augmente. Mais de quel amour Paul parle-t-il? C'est la première question à laquelle je vais répondre. Paul ne demande pas aux chrétiens de Philippe que la communauté croisse en nombre. Non, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé que votre communauté augmente, mais il a dit plutôt que votre amour augmente. Et bien, de quel amour il parle? Oui. La préoccupation première de l'apôtre Paul, c'est la vie spirituelle, le bien-être spirituel, la santé spirituelle, si vous voulez, des Philippiens. Voilà pourquoi Paul leur parle d'amour, qui est la vertu qui surpasse toutes les vertus, et ce qui explique pourquoi il intercède à leur faveur avec autant d'ardeur. Paul sait que Dieu a déjà répandu son amour dans le cœur des Philippiens à leur conversion. Et cet amour qui devait être manifeste dans leur vie quotidienne. Eh bien, le problème, c'est l'homme. L'homme qui met des limites à la manifestation de l'amour de Dieu. Que Dieu a déversé dans nos cœurs à l'image d'un barrage qui gêne l'écoulement d'une rivière. Vous savez, pour produire l'électricité, un coup d'eau qui est en haut débit, on met un barrage avec des turbines. Hein, qui empêche l'eau de couler librement. Hein, et l'eau tourne la turbine qui produit l'électricité. Donc c'est comme ça que l'homme met un frein à cet amour que Dieu met dans nos cœurs. Il ne coule pas parce que nous mettons comme un barrage, un frein à l'écoulement rapide de cet amour. Eh bien, nous notons que nous n'ajoutons absolument rien à cet amour que Dieu a mis en nous, que Dieu a répandu dans nos cœurs, à notre conversion. Nous n'ajoutons rien du tout. C'est un amour que Dieu met là pour que nous puissions grandir, nous puissions croître. Dieu travaille en nous pour que nous ressemblions à Jésus-Christ qui est notre modèle. Eh bien, nous allons illustrer cela par l'exemple de Paul, de l'apôtre Paul. Nous allons donc lire Philippiens 3, versets 8 à 11. Paul dit: et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de sa souffrance en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection dans les morts. Eh bien, qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que nous constatons? Que la rencontre de Paul avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, cette rencontre a transformé la vie, la perception des choses de Paul. Vous savez que Paul persécutait l'Église. Et un jour, sur la route de Damas, Jésus, vous connaissez l'histoire. Et de persécuteur qu'il était, il est devenu serviteur de Dieu. Cette rencontre de Paul avec Jésus l'a amené à une connaissance personnelle et spirituelle, au point qu'il a sacrifié à Jésus-Christ tous ses avantages terrestres, pourvu qu'il arrive au but. Il a dit, je cours pour attraper le but, pour arriver au but. C'est pas que je l'ai déjà atteint. J'avance, oubliant ce qui est derrière moi. C'est ce qu'il a dit plutôt aux Philippiens. Le but, c'est la perfection. Et il ne se flatte pas de l'avoir atteint. Il s'agit d'un renoncement qui démontre son amour, sa réserve pour Christ. Le fait que Paul considère comme un grand honneur la communion de ses souffrances avec Christ et de Christ avec lui démontre également de l'amour pour Christ, c'est-à-dire un amour prêt au sacrifice de sa vie. Alors, quelle est la conclusion à laquelle nous pouvons aboutir là? On peut conclure à travers l'exemple de Paul que si l'amour augmente en pleine connaissance et en pleine intelligence de Christ, cela met inéluctablement l'amour en action. Et cela de la bonne manière, comme nous venons d'en parler. Vous voyez, Paul qui était persécuteur, et parce qu'il a rencontré Christ, il est devenu serviteur de Dieu. Il faut dire que l'apôtre Paul, il a travaillé plus que tous les autres apôtres qui étaient en chemise avec Jésus. Son expérience avec Christ l'a transformé et il a mis son amour en action. Il est devenu bâtisseur d'église, il a obéi au commandement de Dieu, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il est allé partout. Il a fondé des églises à Corinthe, à Thessalonique, à Philippe, objet de notre sermon. Ma seconde question que je me suis posée, c'est en quoi Paul veut-il que cet amour augmente? Dit, je veux que votre amour, je prie pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance. Je prie et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Eh bien, mes frères et sœurs, une bonne connaissance de la parole de Dieu nous donnera le discernement. Lorsque nous avons une bonne connaissance de la parole de Dieu, cela nous donne le discernement. Et un discernement qui est nécessaire en vue d'un bon comportement. La connaissance de Dieu ou la connaissance de la vérité exprime surtout la perception claire de cette vérité. C'est un peu ce que j'ai dit, un peu théorique, mais vous allez voir par la suite des exemples palpables. Eh bien, qu'est-ce que nous observons ici en France en été? Vous voyez tout le monde avec des lunettes solaires, n'est-ce pas? Même les enfants les portent. Pourquoi? Parce que on leur a appris, on leur a enseigné que bien que nous voyons les rayons solaires, il y a les rayons UV qui sont nocifs à nos yeux. Donc, si on n'était pas enseigné, dès en hiver, on allait regarder les rayons solaires, on allait marcher sous le soleil comme ça, les yeux nus. Et vous savez la conséquence, c'est des maladies, des yeux. Voilà. Donc, la connaissance est une bonne chose. Là, Paul demande que les Philippiens augmentent, que leur amour augmente en connaissance. En connaissance, pas en connaissance scientifique, mais en connaissance de Jésus-Christ. Nous allons donc écouter la recommandation de Paul pour les Philippiens et nous en tirerons des applications pour notre vie. Nous allons lire Philippiens 2, du verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, étant des chrétiens que nous sommes, quelle est l'application que nous pouvons faire pour nos vies? Qu'est-ce que nous tirons de ce texte de Philippiens 2, du verset 5 à 11? Jésus, il a été humble dans la vie. C'est l'humilité totale qui a caractérisé sa vie. Ça n'est pas plein, ça n'est pas. Il n'est pas devenu hautain, il n'est pas devenu orgueilleux, parce qu'il est Dieu. Il s'est humilié, il est devenu serviteur. Vous avez vu qu'il a donné un exemple. Il a lavé les pieds à ses disciples pour leur montrer l'exemple d'humilité. Deuxième trait de caractère que nous pouvons observer chez Jésus, il a été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. Il a obéi à son Père. Oui, c'est ça ce que nous devons apprendre, à obéir comme Jésus. Jésus, c'est notre modèle. Nous devons obéir, nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Vous savez que la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. Donc, nous devons obéir à la parole, ce que la parole nous dit. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui-là qui obéit à mes commandements et qui les met en pratique. Donc, c'est ça l'application que nous pouvons tirer pour notre vie. Je vais aussi lire Philippiens 4, versets 8 et 9. Paul dit à ses auditeurs, les Philippiens, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Alors, j'ai cité cette portion de verset pour vous dire que l'apôtre Paul, à son époque, il n'y avait pas la Bible. La vie des Philippiens était caractérisée par l'oralité. L'évangile de Jésus-Christ est communiqué oralement. Il n'y avait pas de support, papier. Il n'y avait pas de Bible. Et je voulais, pour me rafraîchir la mémoire, l'apôtre Paul a fondé, a bâti cette église de Philippe entre 55 et 62 après Jésus-Christ. Et la Bible n'est apparue qu'après. Les Philippiens n'avaient pas l'avantage que nous avons maintenant. Nous avons la Bible de diverses manières. Il y en a sur le téléphone, nous en avons sur Internet, nous en avons sur le support papier. Les Philippiens n'ont pas eu cet avantage. C'est l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul est obligé de prier pour eux, pour que la parole demeure en eux, la parole qu'il est en eux demeure, coule, qu'il n'y ait pas un frein. Un autre exemple, Philippiens 2:2, il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Il continue, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Eh bien, l'apôtre Paul sait que si l'amour de Christ abonde en nous, ou abonde chez les Philippiens, les chrétiens de Philippe, ils ne manqueraient pas d'écarter tout ce qui peut être une menace pour leur unité. Et si l'amour augmente chez eux, ils pourront cesser d'être égoïstes, mais seront plutôt désireux de considérer les intérêts des autres aussi. Nous le voyons dans Philippiens 2, 4 à 5. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà, c'est tout cela, c'est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs qui fait ces choses. Si l'amour augmente en connaissance de Jésus-Christ, en connaissance de la parole de Dieu, eh bien, ça crée en nous des actions justes, des actions exemplaires. Voilà. Donc, si cet amour augmente chez eux, les Philippiens pourront cesser d'être égoïstes, mais seront plus désireux de considérer les intérêts des autres. Eh bien, nous allons continuer un troisième exemple, Philippiens 2, verset 14. À 15. Où l'apôtre Paul dit, c'est une recommandation, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, en des enfants de Dieu, irréprochables au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Oui, chers frères et sœurs, si l'amour augmente, l'amour que Dieu a déversé en nous, si cet amour augmente en connaissance, eh bien, nous pourrons faire toutes choses sans murmure et sans hésitation. Lorsque le berger dit, faites ceci, allons évangéliser, allons porter la parole, allons porter, allons prier avec les frères et sœurs, ici, ce frère qui est dans la difficulté, mais si l'amour abonde, on suit sans murmure, on suit sans hésitation. Eh bien, le mot irréprochable parle non seulement en faveur de juste motivation, mais aussi des actes en conformité avec la norme de Dieu. Vrai devant Dieu, transparent devant Dieu et vrai devant les hommes. Et bien l'apôtre Paul dit aussi, dans toujours cette portion de verset, il dit que l'amour augmente en intelligence. Oui, l'intelligence, c'est un concept un peu complexe. J'ai essayé de recouper les définitions. Il y en a plusieurs. Mais nous, pour nous, chrétiens, la définition le mot intelligent, ça veut dire le discernement, tout simplement. L'amour que Dieu a placé dans nos cœurs est un amour clairvoyant. Ce n'est pas un amour sombre, lugubre, non, c'est un amour clairvoyant. C'est un amour qui peut opérer des choix. C'est de ça que Paul parle. Si cet amour augmente en pleine connaissance et en pleine intelligence, cet amour va vous amener à faire un choix. Et le choix, c'est le bon choix. Dieu n'a pas mis un amour, le bon choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais, entre ce qui est mal et ce qui est juste. Voilà. Donc, quand Paul dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en intelligence, l'intelligence dont il parle, c'est l'intelligence qui nous permet de discerner. Nous allons voir par la suite ce que c'est que le discernement. Et donc, le prochain point, c'est la prière de Paul pour un juste discernement. C'est le grand 2. On a parlé longtemps de l'amour. Hein, c'est l'amour, c'est la vertu qui surpasse toutes les vertus. Vous savez que pour Jésus, l'amour, c'est le plus grand commandement. Il a dit, aimez Dieu. Vous savez qu'il y a un juif qui a voulu piéger Jésus et il a posé une question. Seigneur, quel est le plus grand commandement? Le Seigneur lui a répondu, aime ton Dieu et le second commandement, aime ton prochain comme toi-même. Voyez donc, l'amour, c'est la vertu qui surpasse toutes les vertus. Voilà pourquoi ça a pris du temps dans le développement de ce sermon. Donc, j'apporte le second point, la prière de Paul pour un juste discernement. Eh bien, dans quel but cet amour doit-il augmenter? Philippiens 1:10, pour le discernement des choses les meilleures, c'est-à-dire de faire le bon choix, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi le discernement? Le discernement, ça s'apprend par l'étude des Écritures. Par l'étude de la parole, de la vérité contenue dans l'Évangile. et ensuite l'expérience de la vie. C'est ça le discernement. Le discernement s'apprend par l'étude des Écritures et par l'expérience de la vie. Le discernement permet de tracer une frontière entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est ça le rôle du discernement. Il trace une frontière entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Eh bien, je veux ajouter que c'est Dieu qui met à nous cette frontière. Et dans sa parole, qui a communiqué à travers les apôtres, je peux faire allusion, par exemple, au commandement de Dieu, aux 10 commandements par exemple, et qui dit, tu ne tueras point. C'est ça la limite. Quand tu tues ton prochain, tu dépasses ta limite. Et tu tombes dans le péché. Tu n'as pas su discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, le discernement permet de tracer la frontière entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et je dis que c'est Dieu qui trace cette frontière dans sa parole. Et nous, en tant que chrétiens, notre responsabilité, c'est de connaître ses limites et d'agir en conséquence. La parole est là pour nous indiquer la voie. Quelle est la limite? Quelle est la frontière qu'il ne faut pas franchir pour ne pas tomber dans le péché? C'est ça, le discernement. Eh bien, discerner, c'est percer comme l'or. Pour voir s'il est pur. C'est ainsi que les chrétiens que nous sommes, nous sommes appelés à examiner toutes choses à la lumière de la Bible. Toutes choses, nous devons les examiner à la lumière de la Bible. Et à quelle fin? Pour découvrir quelles sont les meilleures choses et faire la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, entre ce qui contribue au salut et ce qui est nuisible. Voilà le rôle du discernement. Discerner, c'est un fait comme le pur. Alors pour cela, il faut de la connaissance et de l'intelligence, comme l'avait vu tout à l'heure. Et Paul a trouvé que l'amour des chrétiens de Philippe augmente en connaissance et en intelligence. Nous avons essayé de définir ce que c'est que la connaissance selon Paul, nous avons essayé de définir ce que c'est que l'intelligence. Et il faut, n'est-ce pas, pour discerner des aptitudes. Des aptitudes, c'est-à-dire, c'est pas ce qu'on acquiert au lycée ou à l'université, mais c'est des aptitudes qui nous sont communiquées à l'école de Christ. Quand nous suivons Christ, nous sommes ses disciples. Il nous enseigne par sa parole. Il nous enseigne par ses commandements. Voilà. Alors je vais donc aller au troisième point. Et la prière de Paul pour une véritable pureté. C'est le troisième point de notre plan. La question que je me pose, qu'est-ce que Paul attend des Philippiens? lorsqu'il prie pour eux, qu'est-ce qu'il attend? Il dit, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ et à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, le but, ce qu'attend Paul, c'est que les Philippiens puissent être trouvés purs et irréprochables. Et la pureté, c'est la qualité de ceux qui sont transparents devant Dieu et vrais dans leur relation avec les autres. La pureté, je me répète, c'est la qualité de ceux qui sont transparents devant Dieu et vrais dans leur relation avec les hommes. Être pur, ce n'est pas être une pierre d'achoppement pour les autres, c'est-à-dire être la cause du péché des autres. Être pur, c'est être libéré de toute impureté. Être pur, selon John MacArthur, je vous lis ce qui est sa déclaration. Pur signifie authentique, c'est-à-dire vrai, et sans avoir le sens original de tester à la lumière du soleil. Et dans cet exemple, dans l'Antiquité, les vendeurs malhonnêtes cachaient en les mastiquant de cire les fêlures de leur poterie. Les fissures, si vous voulez, de leur poterie et de poterie de second choix. Puis il est recouvert de vernis ou de peinture, si bien qu'il était difficile de distinguer des vases de qualité et de mauvaises vases. Et la seule façon de ne pas se laisser berner consistait à exposer le pot au soleil, ce qui rendait ces fêlures visibles et les dépôts éventuels visibles également. Les marchands, pour aller plus vite, ils apposaient sur la poterie de luxe la mention sine sera, c'est-à-dire sans fuir. Voilà, quand vous voyez si ne sera sur une poterie, eh bien vous êtes sûr que bon, c'est une poterie de qualité, ça n'a pas de fêlure. Et irréprochable peut se traduire par qui ne fait pas trébucher et comporte une notion d'intégrité dans le rapport avec autrui. C'est ce que je disais, être vrai dans les rapports avec les autres. Alors, les chrétiens que nous sommes appelés à mener une vie intègre afin de ne pas devenir des occasions de chute pour les autres. Être pur et irréprochable, c'est ça l'intérêt. Alors, je vais avancer vite et conclure. Il est important, selon Paul, que les chrétiens soient purs et irréprochables pour le jour de Christ. C'est ce jour où chacun devra rendre compte, et c'est le jour là où aussi chacun devra recevoir sa rétribution. C'est ce que Dieu veut de nous. Il veut que nous soyons purs et irréprochables ce jour-là. Alors, pour être pur et irréprochable ce jour, il faut commencer à vivre de telle vie dès maintenant, ici-bas, par l'œuvre commencée par Dieu en nous et en nous appuyant sur lui. Philippe, Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il l'a dit dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a l'œuvre, il y a Dieu, il y a l'amour de Dieu en nous qui travaille pour que nous puissions ressembler à Christ. Nous puissions marcher dans les pas de Jésus-Christ. Et bien, dans tout ce que Dieu fait, il veut glorifier son nom. Notre rédemption par le Christ, notre conversion, notre salut par la foi, notre marche avec le Seigneur, notre sanctification, et tout cela contribue à la gloire et à la louange de Dieu. Choisir le meilleur implique donc de choisir ce qui contribue à développer le caractère de Christ en nous. Eh bien, ce sont de telles vies qui pourront glorifier Dieu. C'est ce que Paul qualifie de fruit de justice. Le fruit de justice, c'est le produit spontané de la vie nouvelle divine qui a été plantée en nous au moment de notre salut par la présence du Saint-Esprit en nous. C'est une vie divine qui se fonde sur la justice qui est obtenue par la foi en Jésus-Christ. Et c'est le fruit qui est conforme selon la justice dans nos caractères, dans nos pensées, dans notre conduite. Il s'agit d'une justice qu'on a reçue pour écarter toute idée de mérite personnel. Voilà, je suis arrivé à la fin du second point. Je vais conclure en posant deux questions. Quelle est la motivation de Paul? Quelle est la raison d'être de cette ferveur dans la requête de prière de Paul pour les Philippiens? Eh bien, Paul voudrait que les Philippiens sachent discerner le discernement. Sachent examiner. Peut-être à la lumière du soleil, comme les marchands. Et que les Philippiens sachent éprouver ce qui est important, ce qui compte vraiment dans la vie chrétienne. Je veux dire la volonté de Dieu pour nous et le fait de tenir ferme dans le bon témoignage pour Christ. Donc c'est trois choses qui justifient la ferveur avec laquelle Paul prie pour les Philippiens. Il veut qu'ils sachent discerner que comme nous, les chrétiens, nous devons savoir discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, parce que Dieu a mis l'amour en nous, cet amour n'est pas aveugle, comme dirait le monde, mais c'est un amour clairvoyant. Voilà. Ma deuxième question, pour terminer, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous vivons sous la perspective de la promesse de la seconde venue de Christ? Vivons-nous sous la perspective de la promesse de la seconde venue de Christ? Je crois que la réponse de tout un chacun sera oui. Sinon, je ne serai pas là. N'est-ce pas? Voilà. Nous attendons tous la seconde venue de Jésus-Christ. Et notre prière devait être que Dieu fasse à ce que nous soyons trouvés par lui, purs et irréprochables, en faisant quoi? En examinant les choses, en discernant ce qui est bon du mauvais, en éprouvant, cherche Paul a dit quelque part, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Telle devait être l'attitude des chrétiens que nous sommes. Et nous ne devons pas être l'objet d'achoppement pour les autres. Notre conduite doit amener les autres, comme nous sommes, nous avons la lumière en nous, nous sommes la lumière du monde. Les gens doivent voir la lumière à travers de nous, comme l'a dit dans Philippiens, il a dit, vous êtes comme les flambeaux, n'est-ce pas, dans un monde pervers